Où va s'arrêter Jeff Bezos, le grand patron de Amazon? Écoutez, on apprend là ce matin là qu'ils sont en discussion pour racheter une chaîne de salles de cinéma. Ils étaient déjà dans le domaine de la production de contenu, cinéma, télésérie et tout le reste. Et puis, je vous rappelle comment ça a commencé. Hein, c'est une entreprise de commerce en ligne, dans le fond, pour le début des livres et tout le reste. Et puis, bon, ça s'est amplifié. À un moment donné, ils ont acheté une chaîne de produits bio, donc pour vendre des aliments. Alors, Luc Dupont va nous dire tout ça. Bonjour, Luc.
Bonjour, Bernard.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu avais vu ça venir?
C'est un succès remarquable. Bon, éventuellement, on va finir probablement par investir à peu près tous les secteurs de l'activité économique. On parlait aussi en début de semaine de l'assurance, potentiellement. Éventuellement, moi, je serais pas surpris qu'on ait dans le domaine du voyage aussi. Alors oui, on est très, très loin de l'époque où on avait identifié. En fait, lui avait identifié, Jeff Bezos, à l'origine, 20 produits qu'il rêvait de vendre sur Internet. Il avait commencé avec les livres. Les livres, pourquoi? Parce qu'il estimait que c'était le plus facile, au fond, à mettre dans un colis puis à poster, à envoyer. Par la suite, bon, il y avait sur sa fameuse liste la musique, les vêtements, les jouets, les souliers, la nourriture. Puis éventuellement, bon, il a fini par faire l'acquisition de toutes sortes d'entreprises comme ça dans ces secteurs-là.
Est-ce qu'il fait de l'argent dans tous ces segments-là? Est-ce que tous ces produits sont rentables?
Ce qui est remarquable dans son cas, lui, c'est que pendant très, très longtemps, au nom de la croissance de l'entreprise, il disait, il faut être patient, puis on va envahir tous ces secteurs-là, mais je ne vous promets pas des profits instantanément. Je vous promets des revenus, par exemple, colossaux à très, très court terme. Et puis, ce qu'il ne faudrait pas oublier, Bernard, c'est qu'on parle souvent des livres, mais en réalité, au moment où on se parle, si tu cherches les profits ou l'argent, le fric là, que fait Amazon, c'est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec des produits que tu pourrais prendre dans tes mains. Ils font leur fric avec le cloud, donc l'informatique dans les nuages, comme on l'appelle communément. Quand tu, tu as des photos sur Apple, tu as des photos que tu mets sur un site comme Google, etc. Beaucoup d'entreprises également. Alors, et ces entreprises-là...
Il est propriétaire de serveurs, c'est ça?
Oui, parce que lui, évidemment, tu devines, c'est le plus important acheteur, entre guillemets, d'espace sur ces serveurs-là, n'est-ce pas? Mais il n'occupe pas tout l'espace. Alors, à un moment donné, l'idée qu'il a eue, qui est absolument géniale, c'est pendant que le stationnement n'est pas occupé, pourquoi je vendrais pas des places de stationnement? Je prends un exemple bien simple, bien imagé, mais pour faire comprendre à tout le monde que c'est comme ça qu'il a fini par faire ça. Puis là, il a envahi d'autres secteurs aussi. Il a acheté un journal, le Washington Post. C'est pas anodin, Bernard, parce que tu auras compris aussi que souvent, et je soupçonne qu'à la fin, là, si tu cherches le hic, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un hic, là, il y a un hoquet, là, ce sera probablement le gouvernement américain qui dira à quel moment on dit « Oups, là, c'est un petit peu fort. » Et puis là, on parle
Ça commence à faire cartel, là, mettons. Oui. Là. Ça commence à faire... Il n'y a pas assez de concurrence. Là.
Oui, et dans bien des secteurs, lorsqu'il il s'intéresse au secteur, éventuellement, c'est parfois ce qui se passe. Et je vais te faire deux petites prédictions. Un, je continue toujours à penser que au moment où Amazon va franchir le cap du trilliard de dollars, tu te souviens on a parlé en fait à cette antenne, j'ai parlé d'Apple qui a franchi récemment le cap du trillion de dollars. Je pense que lorsqu'Amazon va franchir ce cap-là, il y a des gens qui vont lever la main à Washington en disant est-ce qu'on n'est pas rendu un petit peu loin? Prédiction 1. Prédiction 2, on parle du cinéma. Or, il faut savoir qu'il existe une loi aux États-Unis. En fait, il y a un procès célèbre en 1948. La Cour suprême a dit, vous ne pouvez pas, quand vous faites des films, quand vous tournez des films, quand vous produisez des films, quand vous distribuez des films, vous ne pouvez pas non plus posséder des chaînes de cinéma.
Ah oui.
Et c'est pour ça, en passant, que le popcorn est si important dans la logique de l'industrie cinématographique. C'est que lorsqu'en 48, on a dit la personne qui produit le film ne peut pas posséder ce qu'on appelle communément l'intégration verticale, c'est l'expression qu'on utilise. Tu possèdes toute la séquence. Donc, des gars comme Disney, qui dans le temps était considéré un indépendant, les temps ont bien changé, tu me diras, mais Disney avait poursuivi en disant « il m'empêche de distribuer mes films ». parce que le cinéma est possédé par un grand joueur, Paramount, Columbia, MGM, pour ne pas les nommer.
Oui, oui, oui.
Puis moi, je veux distribuer mon film, je voudrais que les gens puissent le voir, mais eux, ils imposent des règlements super tough.
Parce qu'ils étaient propriétaires de
salles.
Ils avaient leur réseau de salles.
Oui, alors en 1948, le gouvernement américain a dit, on ne peut plus faire ça. Si vous avez les salles, c'est pas vous qui avez les studios. Alors ici, là, on aura un précédent sur le plan légal qui ouvrirait une brèche. J'ai pas encore vu cette analyse-là. Je te la lance comme
Mais je trouve ça intéressant. D'abord, je ne savais pas ça, là, puis tu me ramènes ça à Disney. C'est intéressant. Je veux juste comprendre, par contre, là, la logique là, entre les livres, les films, la bouffe, les salles de cinéma, peut-être les assurances. C'est quoi la logique marchande qui réunit, qui relie tous ces différents marchés?
Ben, la logique marchande, c'est que si je le fais pas, il y a quelqu'un qui va le faire à ma place. Et dans tous les cas où il ne l'a pas fait...
Il y a combien d'entreprises là, qui se sont plantées en voulant trop s'éparpiller?
Oui, absolument.
J'ai l'impression d'un gars qui s'éparpille beaucoup, Bezos, actuellement.
Et la moitié de ses acquisitions sont des échecs. C'est juste qu'on parle jamais des échecs, mais au début 2000, quand tu as eu toute la séquence très, très difficile, Pet.com et toutes ces entreprises-là, lui a fait, il a fait l'acquisition de dizaines, pour ne pas dire au-delà d'une centaine d'entreprises. Et un très grand nombre de ces entreprises-là ont fait par la suite faillite. Mais ce que ça montre aussi à l'usage, c'est qu'il y a des secteurs où ça marchait, puis il y a des secteurs où ça ne marchait pas. Mais je vais te donner un exemple. Là, le meuble de haut de gamme, ben, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dessus. Mais il y a une entreprise qui occupe cet espace-là. Puis je ne serais pas étonné qu'un jour, il fasse l'acquisition de ça.
Et l'autre mais il fait son argent comment? Luc, il fait son argent comment? C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est quoi son modèle d'affaires?
Ah, son modèle d'affaires, ben, il est fondé sur 3-4 choses bien, bien simples. Un, vendre sur Internet. Deux, la livraison gratuite. Trois, l'expérience client. Lui, ce qu'il a dit à un moment donné, c'est tous les gens qui se pètent la gueule sur Internet commettent la même erreur. C'est qu'ils pensent que la clé, c'est le produit. Mais le produit qu'on vend, c'est pas le produit qu'on vend, la clé. La clé, c'est le service à la clientèle. C'est la rapidité avec laquelle tu me dis quand j'ai commandé, tu me confirmes que j'ai commandé, que tu as reçu ma commande, que tu as envoyé ma commande aux marchands, que les marchands viennent d'envoyer.
OK, ce que tu es en train de me dire, là, c'est que dans le cas des livres, il faisait pas son argent avec les livres, il faisait son argent avec la livraison. Dans le cas de la bouffe, c'est pas sa marge de profit de 2-3 % qu'on connaît dans le commerce de détail.
Qui est minuscule.
Qui est minuscule. C'est avec la livraison qu'il va faire son fric, etc., etc., pour tous les produits.
Et tout le reste. Et il s'est aperçu avec le temps, à l'usage, que si quelqu'un... Alors, c'est là qu'à un moment donné, il a créé son système Prime, où il a dit, ben je vais vous envoyer mon stock gratos. Puis effectivement, dans ce cas-ci aussi, il fait pas toujours du fric.
Tu m'as dit livraison gratuite, c'était son modèle d'affaires?
Oui, pas faire d'argent, absolument. C'est gratuit. Puis, rappelle-toi, puis les gens plus âgés qui nous écoutent se souviendront que quand on annonçait à la télévision, parce qu'on n'a pas complètement réinventé le marketing sur ce plan-là, mais rappelle-toi quand autrefois on achetait des trucs à la télévision, c'était quoi les coûts, les frais de manutention? Te souviens-tu? Bien, il y avait comme une règle non écrite qui voulait que tu achetais quelque chose à 19,99 parce que ça coûtait toujours 19,99. Et c'était le prix clé, c'était celui qui générait le plus de ventes. Puis la beauté à la télévision, c'est que tu le savais très, très vite si ça marchait ou si ça marchait pas. Ça s'appelait le téléphone qui sonne ou qui sonne
bien
pas. Mais ton objet à 19,99, souvent, les frais de manutention, c'était quoi? C'était 25 $. Donc, il y avait une règle non écrite qui voulait que tu te rattrapais sur les frais de manutention. Mais lui, pour envahir le marché, il a dit, à très, très court terme, je vais couper là-dessus. Mais tu sais que je rencontre souvent des entreprises qui s'entêtent à demander ou exiger des frais de manutention extraordinairement élevés lorsqu'on achète sur Internet, sur leur site Internet. Et j'ai même vu des entreprises vendre sur Internet des produits que tu retrouvais dans leur propre magasin moins cher. Alors, ma réponse courte, c'est l'histoire d'un ingénieur qui a étudié à Princeton en 1986, qui a travaillé à Wall Street, puis qui, à un moment donné, a vu qu'il y avait une opportunité extraordinaire, une nouvelle plateforme. Malheureusement, le malheur avec avoir un certain âge, c'est que je me souviens comme si c'était hier de l'avant Internet. Hein? Ça fait drôle à dire aujourd'hui, mais il y a eu un avant Internet et qui a saisi toutes ces opportunités-là. Et là où je le trouve particulièrement intelligent, je vais te le dire actuellement, Bernard, c'est qu'au fond, c'est à la mode d'annoncer la fin du commerce de détail physique, là,
oui.
Les magasins.
Oui.
Sais-tu qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, ben chaque fois qu'il y a une grosse chaîne qui va avoir des problèmes majeurs puis qui va être intéressante, Whole Foods avait des problèmes en passant avant qu'il arrive. Les cinémas ne traversent pas leurs meilleures séquences, tu devineras, avec Netflix, entre autres. Ça a déjà été plus facile. Puis, il envahit littéralement ces secteurs-là.
OK, mais dans le cas du cinéma, ça ne sera pas de la livraison. Là.
Ça ne sera pas de la livraison. Mais son accès au capital fait en sorte que quand il a acheté Whole Foods à 14 milliards, dans la journée même, le titre d'Amazon a pris 14 milliards en valeur. En d'autres mots, ce que je suis en train de te dire, c'est que, à certains égards, en étirant ça sur le plan comptable, quand il fait une acquisition, il y a toujours un bonus cadeau. Puis quand tu lances dans la pharmacie, c'est ça qu'il est en train de faire aussi avec la pharmacie, avec Buffett d'ailleurs. C'est pas le club des clowns.
Dans le cas de la bouffe, dans le cas des médicaments et tout le reste, il va vendre des pilules. Puis oui. Il va vendre du jus d'orange, puis je sais pas quoi.
Il va
le livrer à la maison, c'est ça?
Oui.
Les gens vont le commander par Internet. Il va le livrer.
Oui.
Mais il livrera pas ça gratuitement, là. Quand tu me disais livraison gratuite, dans le fond, ce que tu voulais dire, c'est qu'il va...
Je soupçonne qu'au début, il va te dire que ça coûte rien. Oui.
Mais parce il l'inclut
que
dans le prix, non? Il l'inclut dans le prix.
Assurément qu'à certains égards, il tient compte de tout ça. Mais l'autre rumeur, Bernard, c'est qu'il pourrait acheter les services postaux américains.
Oui, je sais, j'ai vu ça.
Donc,
développer le marché de la livraison par drone.
Oui, aussi. Bon, là, je t'avouerai qu'à chaque année, quelque part, au début décembre, il revient avec cette nouvelle-là. Moi, j'appellerais ça au moment où on se parle des relations publiques. Je prétends pas que ça arrivera pas, mais mettons qu'il en reparle tout le temps au début décembre. J'ai remarqué ça.
En tout cas, il est à surveiller, Bezos, on s'entend, là. C'est un entrepreneur vraiment exceptionnel. Et
historiquement, ce genre de joueurs-là, la seule manière de les ralentir, éventuellement, ça s'appelle le gouvernement.
Oui, on a bien saisi ça.
Souviens-toi de Microsoft à la fin du...
En même temps, il faut les surveiller. Il y en a un autre grand, Musk, hein, qui est en train de dégringoler sérieusement.
Oui.
Là, c'était une icône, lui, de l'entrepreneuriat américain. Puis là, tu vois, là, c'est à surveiller. J'aimerais ça qu'on en reparle, d'ailleurs, à un moment donné, peut-être, de Musk. Si jamais tu as des choses à nous dire là-dessus, parce que c'est fascinant ce qui se passe dans son cas, Luc Dupont.
Hein? C'est le P.T. Barnum du 21e siècle.
Le quoi?
Le P.T. Barnum. Barnum, qui est généralement considéré comme l'inventeur, de manière non officielle, bien sûr, des relations publiques. C'est lui qui a dit, si tu ne parles pas de quelque chose, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer.
Tu me parles de Bezos, là?
Non, je te parle.
Tu me parles de Musk?
Je te parle de Musk. Musk disait, P.T. Barnum disait, si tu ne parles pas de quelque chose, si tu ne parles pas de quelque chose, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Rien. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en parler toujours. Et dans ce département-là, Musk est dans une classe, mais là, tout à fait. À part, mais moi, je le trouve remarquable, je te cacherai pas. Puis l'autre entreprise qu'il faut pas oublier, c'est Alibaba. Parce que si Amazon fait tout ça, c'est que chaque fois qu'Amazon ne pose pas le geste, il y a une entreprise qui souffle dans son dos très, très fort, qui s'appelle Alibaba.
On se reparle de tout ça, mon cher Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Salut, Luc.
Bonne journée.
Dans un instant, l'actualité internationale.